Espace Santé Gène.
Et si on en parlait ?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Espace Santé Jeune et si on en parlait. Animée par les membres de l'équipe de l'Espace Santé Jeune Point Accueil Écoute Jeune d'Indre-et-Loire, cette émission a pour objectif d'aborder diverses thématiques de santé qui font l'actualité. Je suis Célia Tranchant, accueillante assistante sociale à l'Espace Santé Jeune, et je suis accompagnée de ma collègue Cathy Laroche, qui a un Master 2 en recherche en psychologie sociale et qui est salariée à l'Espace Santé Jeune Point Accueil Écoute Jeune de Tours. Bonjour Cathy.
Bonjour Célia.
Donc le sujet de santé du jour, c'est l'identité sexuelle à l'adolescence. Identité sexuelle, identité de genre, plusieurs nouveaux termes sont apparus au fil des années dans notre société, de par l'évolution des représentations de la sexualité dans la société. Cathy, qu'est-ce que tu peux en dire sur tous ces nouveaux termes ?
C'est vrai qu'il y a des termes qu'on peut entendre de plus en plus aujourd'hui et qui sont pas forcément des termes récents. On peut avoir cette impression-là parce que dans les médias, dans les productions télévisuelles et au cinéma, on en entend plus parler. Mais finalement, c'est des choses qui renvoient à des problématiques assez anciennes. Donc pour revenir et faire un point sur l'identité sexuelle, qu'est-ce qu'on entend par là ? En fait, l'identité sexuelle, si on veut résumer les choses, ça répond à la question « qui suis-je ? » Est-ce que je suis une fille, un garçon ? Est-ce que je n'arrive pas à me reconnaître dans l'une ou l'autre de ces catégories ? Donc ça renvoie vraiment à notre identité de personne, un peu comme voilà, on voit une fille, un garçon, c'est la première chose qu'on remarque chez les gens souvent. Et c'est pas la même chose que l'orientation sexuelle, qui est un thème un petit peu plus discuté, un petit peu plus médiatisé aujourd'hui. Donc ça, l'orientation sexuelle, ça répond plutôt à la question par qui je suis attirée et de qui je suis amoureux. Donc l'orientation sexuelle, ça va renvoyer par exemple à l'homosexualité, à l'hétérosexualité, à la bisexualité. C'est pas la même chose que l'identité sexuelle et les deux termes ne se confondent pas.
De nouveaux termes sont apparus un petit peu dans notre société actuelle. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer cette évolution de mentalité. C'est vrai que là, on peut voir dans les années 70-80, par exemple, ne serait-ce que l'homosexualité, c'était encore perçu comme une maladie, comme quelque chose de déviant. C'est qu'à partir des années 90, où ça a commencé à devenir quelque chose de normal, en fait. Pareil, un petit peu plus récemment, et c'est là où on se dit qu'il y a encore du progrès peut-être à faire sur les représentations sociales de la sexualité. En 2013, je pense que tout le monde se souvient de la loi du mariage pour tous qui a été votée, qui a fait scandale, parce que c'est encore, on sent que c'est encore un peu dans les mœurs. Et là, très récemment, l'Assemblée nationale qui a voté l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, qui avant était réservée aux couples hétérosexuels ou femmes seules qui ne peuvent avoir d'enfants. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment ouvert à toutes les femmes, donc même les couples lesbiens ou même n'importe qui peut avoir des enfants aujourd'hui, quoi. Donc, qu'est-ce qui fait que ces mentalités-là ont changé ? Pourquoi il y a cette évolution qui arrive et qui a encore peut-être un peu de mal à voir le jour, à être normalisé dans notre société.
Alors, l'évolution des représentations et des lois aussi, elle est due à de nombreux facteurs. Si l'évolution est si compliquée, déjà, c'est parce que tout simplement, il y a des normes sociales, en fait, qui correspondent à certaines structures sociales, à certaines lois, à certaines façons de faire société. Et du coup, dès qu'on veut se situer un peu en dehors de ces normes, tout de suite, c'est un peu plus compliqué. Donc si ça a pu évoluer, c'est pour diverses raisons. Il y a à la fois l'aspect juridique où on a pu faire passer des lois qui justement normalisaient en fait certaines choses. L'homosexualité, pour rebondir ce que tu as dit Célia, c'était pas seulement perçu comme une maladie, c'était aussi illégal. La transidentité aussi par exemple, jusqu'à très récemment, a été considérée comme une maladie mentale. Donc c'est à la fois parfois des luttes de personnes homosexuelles, transidentitaires, qui ont permis un peu de mettre ces sujets-là sur le tapis et d'entraîner en fait des changements législatifs et aussi des changements de représentation. Tu parlais du fait qu'aujourd'hui on en entend plus parler et ça aussi c'est assez important parce que tout simplement pour une personne homosexuelle ou transgenre, voir un film, une série ou sa chanteuse préférée qui se revendique ouvertement lesbienne ou gay, tout simplement, ça l'aide à se dire qu'il est normal, qu'il n'est pas tout seul dans ce cas-là et à effacer peut-être une partie du stigmate qui peut des fois rendre la vie difficile aux gens qui ont ces identités-là.
On le voit de plus en plus, ces stars, ces chanteurs qui assument leur homosexualité, mais qui assument aussi ce côté « je suis un garçon, mais j'ai envie de mettre une perruque longue ou des talons ou des choses comme ça ». Je pense notamment, et je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ces personnes-là, Bilal Hassani, Sam Smith, le chanteur, ou encore Kristen Stewart. C'est des personnes aussi qui assument leur sexualité, mais aussi qui ils ont envie d'être, en fait. C'est pas parce que je suis un garçon que j'ai pas le droit de me maquiller, ou c'est pas parce que je suis une fille que j'ai pas le droit d'avoir les cheveux courts, ou voilà. Et peut-être que ces stars-là, ça peut représenter... Enfin, ces stars, ou en tout cas ces personnes connues, comme tu dis, ça, je pense que ça peut aider aussi certains jeunes dans l'acceptation de soi, dans cette recherche d'identité qui est propre à l'adolescence.
Oui, tout à fait, ça permet de s'identifier, même quand on s'arrête par exemple au simple sujet des filles et des garçons. On sait que les petites filles, quand elles ont des modèles dans les médias, dans les fictions de filles qui font plein de choses, elles se sentent capables de faire plus de choses. Et c'est quelque chose qu'on peut étendre à toutes les personnes qui peuvent subir des stéréotypes ou des discriminations, en fait. Les célébrités dont tu parlais, effectivement, ça permet de montrer que on n'est pas obligé de se conformer à des stéréotypes, que l'identité, c'est quelque chose de complexe, que c'est pas figé dans le temps. Et ça permet aussi d'amener un questionnement, en fait, sur c'est quoi, au final, être une fille, être un garçon ? Est-ce qu'il faut vraiment que ça soit des catégories aussi fermées ? Enfin, voilà, ça ouvre au moins la possibilité d'un questionnement aux jeunes et même aux adultes, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'âge pour se questionner là-dessus.
Complètement. Mais c'est vrai qu'on peut voir aussi cette évolution des stéréotypes où, aujourd'hui aussi, on commence à se questionner sur... les petites filles, elles sont tout le temps habillées en rose, il faut offrir des dinettes, des choses comme ça, des poupées. Et les garçons, eux, c'est le bleu et des jeux d'action, des jeux... Et c'est vrai qu'on se questionne aujourd'hui, un petit garçon peut jouer à la poupée s'il veut jouer à la poupée, une fille peut faire du foot si elle veut faire du foot. C'est vrai qu'on a l'impression que, depuis quelques années, en tout cas, on est en train de débranler un petit peu tous ces clichés, tous ces stéréotypes pour l'acceptation de soi et dès le plus jeune âge au final.
Oui, c'est vrai que ça va de pair. Depuis le début des années 2010, il y a un peu quand même une espèce de retour en force de certaines luttes ou certains questionnements sur l'égalité. Et la question des stéréotypes, ça va aussi de pair avec ça. Parce que par exemple, le fait que les petites filles, on leur achète des dinettes, on leur achète parfois des kits pour faire le ménage ou ce genre de choses, ça renvoie en fait au stéréotype de ce qu'on attend du rôle d'une femme dans la société. Donc effectivement, les gens et les parents en premier lieu essayent un peu de briser ça dès l'enfance pour tout simplement essayer de dire à leur enfant qu'il est libre d'être ce qu'il veut être et pas juste de se comporter comme le cliché en fait.
Que la société attend.
Voilà, exactement.
Et c'est vrai, donc là, on parle un peu de l'importance de casser un peu ces clichés à la petite enfance. Et pour le coup, l'adolescence, c'est vraiment cette période où le jeune, en fait, va se construire parce que il a un nouveau corps, il a une nouvelle façon de penser, il commence à évoluer, il commence à changer de goût vestimentaire, goût musicaux. Enfin, il commence à essayer d'apprendre qui est ce nouveau lui, en tout cas, à s'affirmer. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on ouvre peut-être un petit peu plus de choix, un petit peu plus de possibles dans l'identité et dans le qui je suis au final.
Oui, tout à fait. À l'adolescence, on a besoin de s'identifier à ses pairs. C'est là qu'on va chercher quand même de nouveaux modèles pour se distinguer un peu du seul modèle de ses parents. Avoir des pairs, soit dans son entourage, soit, comme on l'évoquait tout à l'heure, des gens qui ont à peu près notre âge ou qu'on écoute, dont on aime la musique, les films, qui nous proposent d'autres modèles. Ou nous disent en tout cas que y a plusieurs façons d'être une fille, plusieurs façons d'être un garçon, que si on se sent pas bien dans les deux, on peut aussi avoir le droit de le questionner, etc. Évidemment, c'est très important pour les adolescents, ça leur donne quand même une marge de liberté pour construire une identité qui leur correspond et dans laquelle ils se sentent bien.
Complètement. Après, c'est vrai qu'on voit que parfois, il peut encore y avoir ces freins par rapport à la société, par rapport au regard de certains. On l'entend souvent, des personnes homosexuelles qui se tiennent la main dans la rue, qui se font tabasser ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on entend encore dans les faits divers, malheureusement. Mais je trouve qu'on est quand même dans une société qui évolue où les jeunes qu'on peut recevoir, nous, en entretien à l'espace santé jeune, ils sont déjà dans une démarche d'acceptation de la différence de l'autre. Enfin, je trouve que, en tout cas, cette nouvelle génération de jeunes tend vraiment à cette importance d'être soi-même et d'accepter un peu les différences des uns et des autres.
Oui, c'est vrai que je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que à l'adolescence, on se scrute beaucoup, on se regarde beaucoup les uns les autres, on a à la fois envie de se construire en tant qu'individu, mais de pas être non plus trop hors de la norme. Et du coup, le fait qu'il y ait une génération d'adolescents là, pour qui les questions d'égalité et de non-discrimination semblent être importantes, c'est quelque chose d'assez positif, parce qu'on se dit qu'ils grandissent quand même avec des pères plus sensibles à l'idée que chacun doit pouvoir expérimenter son identité, être qui il veut être, etc. Donc on peut s'attendre à ce que ça facilite un peu les choses pour les adolescents qui sont homosexuels aujourd'hui par rapport à une certaine époque. Évidemment, c'est pas rose aujourd'hui. Mais il y a au moins ce progrès-là qui est déjà important.
Les mentalités évoluent depuis les années 90, on va dire, et on voit que ça continue à évoluer et que ça évolue même encore plus loin que ce qu'on peut penser. Là, peut-être que certains jeunes ont encore ce frein ou cette peur par rapport aux parents aussi, parce que je pense que c'est pas forcément facile de venir d'annoncer à ses parents qu'on a envie de changer de sexe ou qu'on aime le même sexe que nous. Enfin, je pense qu'il y a aussi un petit peu cette crainte du parent, parce que parfois ces ouvertures d'esprit aussi qui sont peut-être compliquées, parce que ils font partie de la génération où il y avait encore ces stigmates et toutes ces choses-là. Donc il y a aussi peut-être ce frein des parents. Dans la société actuelle et aujourd'hui, qui peut bloquer peut-être ?
Oui, en fait, au-delà de l'ouverture d'esprit plus ou moins importante des parents, certains parents peuvent être ouverts et accepter l'identité de leur enfant, mais avoir peur en fait des discriminations que leur enfant peut subir, du regard qui va pouvoir attirer sur lui, qui ne sera pas forcément bienveillant. Donc là, effectivement, il faut être capable de rassurer les parents. Déjà, par exemple, les parents qui ont un enfant homosexuel ou transgenre, par exemple, et qui leur apportent cette question-là, être capable de leur dire que c'est pas une maladie, que c'est pas grave, que leur enfant n'a pas de problème, et que effectivement, des fois, il peut y avoir des regards qui sont négatifs, des discriminations, mais que le meilleur moyen d'aider leur enfant, c'est de le soutenir en fait dans ce qu'il est. Et voilà, d'être présent pour lui, de l'accompagner et de l'accepter, tout simplement.
Complètement. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ça soit pour les parents qui se posent des questions sur la sexualité de leurs enfants ou ces adolescents qui se posent des questions, ils peuvent en tout cas trouver des ressources. Alors, s'ils ne l'ont pas au niveau de leur père ou dans leur entourage, il y a des structures comme l'espace Santé Jeune qui existent, mais il y a aussi des sites internet qui sont vraiment bien construits et qui permettent parfois de mieux comprendre aussi et peut-être de comprendre qui ils sont au fond. Est-ce que Cathy, tu as des exemples comme ça de sites ?
Oui, alors au niveau plutôt généraliste, sur tout ce qui est identité sexuelle et orientation sexuelle, il y a le site On s'exprime, qui est très accessible. On le trouve vraiment rapidement dans Google, on tape On s'exprime, on le trouve tout de suite. Et il parle à la fois des problématiques de prévention sexuelle, mais aussi des questionnements que les adolescents peuvent avoir sur leur identité, sur leur orientation sexuelle. Il y a aussi le site du CRIPS, qui peut être une ressource pour les jeunes, mais qui est surtout intéressant pour les parents. Et pour la problématique, entre guillemets, spécifique à la transidentité, il y a un site qui est très bien fait et qui s'appelle Wikitrans, wiki-trans, et qui donne à la fois des ressources pour les personnes transgenres, mais qui peut être aussi une ressource pour l'entourage qui se pose des questions, et notamment pour les parents qui peuvent se demander... ce qui se passe chez leur enfant, comment l'aider à bien le vivre, comment l'aider à aller bien. Et voilà, donc ça, c'est une ressource qui est très intéressante et qui propose différentes brochures. Donc ça, c'est vraiment les trois sites intéressants que je voulais présenter.
Merci beaucoup, Cathy.
Merci, Célia.
Cette émission se termine. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine émission. N'hésitez pas à nous faire part des thématiques de santé que vous souhaiteriez qu'on aborde sur notre page Facebook espacesantéjeune.accueilécoutejeune37. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur le site www.radioactivefm.fr. À bientôt.